Éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton saint nom, je te loue, je te glorifie. Ô Éternel, notre Dieu, donne-nous la grâce de serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, de serrer tes enseignements dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de marcher en conformité avec ta parole, par l'assistance de ton Esprit Saint. Ô Éternel des armées, je voudrais à partir de ce verset prier la Seigneur en ce qui concerne la fin des temps. Ô Père, avec tous les événements que nous vivons, ô Éternel notre Dieu, donne-nous la grâce de serrer ta parole dans nos cœurs, afin d'être éveillés, afin de veiller, afin d'être vigilants, Seigneur Père, pour ne pas passer à côté des signes d'avertissement que tu as mis, que tu mets dans le monde, afin de nous sanctifier davantage et de ne pas rater, Seigneur, le rassemblement lorsque la trompette sonnera. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est vers toi, la paix, que je me tourne et je prie la paix pour les frères et sœurs, la Seigneur, dans le monde entier. Ô Éternel, notre Dieu, donne-nous la grâce de veiller et de prier, la Seigneur, afin que ce jour ne nous surprenne. Ô Éternel, notre Dieu, la Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons, la paix. Je bénis au nom de Yeshua, Père, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui partagent, Seigneur Père, les enseignements que tu me donnes, ô Éternel notre Dieu, la Seigneur. Tu nous as dit de nous fortifier au fur et à mesure que nous voyons les jours venir, au fur et à mesure que nous voyons les temps s'approcher, ô Éternel notre Dieu, la Seigneur. C'est vers toi que nous nous tournons, la Seigneur, pour avoir, Seigneur, l'inspiration, pour avoir la vision, ô Éternel notre Dieu. Yeshua, ton Fils, nous a dit que lorsque nous verrons ces signes, nous devons savoir que le Messie est à la porte, ô Éternel notre Dieu. Déjà, nous entendons les pas du Messie. Donne-nous la grâce de nous préparer. Les trompettes sont déjà à la bouche, ô Éternel notre Dieu. Donne-nous la grâce de nous préparer, Père. Donne-nous la grâce à nous tous qui écoutons ce message de ne pas rater le rassemblement des élus. Si nous ratons le ciel, nous ne raterons pas l'enfer. Ô Éternel, notre Dieu, la paix, viens à notre secours. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous des convoitises de ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Ô Éternel, notre Dieu, la paix. Ô, je bénis tous ces frères et sœurs de par le monde, même que je ne connais pas physiquement. Père, toi, tu les connais, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs luttes, là, Seigneur. Tu connais tout ce qu'ils vivent, ô Éternel, mon Dieu, mon Père. Je prie la paix, que toi, dans ta grâce, que tu les combles au-delà de leurs prières, que tu les combles au-delà de leurs attentes, au nom de Yeshua. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père, une pensée particulière, une prière particulière pour les frères et sœurs qui sont persécutés, que leur foi ne défaille point au nom de Yeshua. Fortifie-les, garde-les dans ton amour et que rien dans ce monde ne les éloigne point de toi, ô Éternel notre Dieu. Mais chaque jour qui passe, quelle que soit l'ampleur de la persécution, ô, qu'ils se fortifient davantage et que ceux qui sont prêts à renoncer à la foi ne renoncent pas au nom de Yeshua. Assiste-les par ton Esprit Saint. Fortifie-les dans la foi, la paix. Ô, durcis le front comme de l'airain, ô Éternel notre Dieu, la paix. Et donne-leur la grâce comme Étienne d'avoir cette vision du Fils de l'homme, du Seigneur qui vient, qui est debout à la droite du trône du Très-Haut. Ô Éternel, notre Dieu, la paix. Souviens-toi des frères et sœurs de l'Ukraine, la Seigneur Père, que tu les protèges, que ta main puissante soit sur eux, au nom de Yeshua. Seigneur, protège la paix, nos frères et sœurs, que tu les gardes, la Seigneur Père, et permets, Seigneur Père, que dans ta grâce, que cette guerre cesse, Seigneur. N'est-ce pas toi qui fais cesser le combat, la guerre, jusqu'aux extrémités de la terre, ô Éternel, notre Dieu, qu'il en soit ainsi la paix. Oh, que les présidents, les chefs ou bien tous ces gens-là qui en coulissent attisent le feu, là, Seigneur Père. Oh, que ces gens-là, Seigneur, reviennent à la sagesse, là, Seigneur Père. Oh, éternel, mon Dieu, mon Père. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur de pierre. Afin que, Seigneur Père, et que le feu cesse, là, Seigneur. Et que les innocents, Seigneur, c'est eux les innocents qui payent le prix, la paix. Et pas les responsables, ô éternel, notre Dieu. Qui n'ont, le peuple n'a rien à voir dans cette guerre, ô éternel, mon Dieu, mon Père. Mais, Seigneur, ça fait partie aussi des signes. Des signes qui doivent nous montrer que nous devons nous préparer, là, Seigneur Père. Donne-nous la grâce de ne pas passer à côté du message. Que toute la gloire te revienne. Seigneur Père, je remets en tes mains, là, Seigneur, l'enseignement que je vais donner, la Père. Oh, que tu bénisses ces paroles, Seigneur, et qu'elles trouvent écho dans nos cœurs, au nom de Yeshua. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Donc, le 11 mars, donc, 2022. Et je vais poursuivre dans la même lancée que la dernière fois où j'ai parlé de la fin des temps. Hein, je vais aborder un autre aspect de la fin des temps. La dernière fois, j'ai parlé de Matthieu 24, hein, sur les temps de la fin. De ne pas nous troubler, mais aujourd'hui je voudrais encore aborder dans le même sens, mais en examinant une parole dans Ésaïe 43 du verset 1 au verset 7. Donc je lis. Ainsi parle l'Éternel. Je lis dans la version Macature. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, au sud, hein, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. J'aimerais aborder ce message que je suis un peu fatigué, et puis je suis souffrant, mais bon, je me dis, comme cette parole est dans mon cœur depuis quelque temps, je vais la relâcher. Je vais la relâcher aujourd'hui, parce que il faut faire les choses, il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Personne ne sait ce qui adviendra demain. C'est ce que Yeshua nous a dit, hein. Que travailler tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, je vais relâcher ce message aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais l'aborder du point de vue d'Israël et de l'Église. Et la dernière fois, dans Matthieu 24, nous avons vu que l'Éternel a dit, ou Yeshua plutôt a dit, le Seigneur Yeshua a dit, qui ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Mais nous savons qu'aujourd'hui, comme il est dans la gloire, il le sait. Lorsqu'il était sur la terre, il était Il s'était dépouillé de ses attributs divins, de beaucoup de choses. Il ne le savait pas. Mais aujourd'hui qu'il est dans la gloire, il a repris toute sa gloire. Donc, il le sait aujourd'hui. Mais malgré cela, il nous a donné des signes. C'est comme des balises. C'est comme des balises, c'est un prodrome, Seigneur. Avant qu'une maladie ne survienne, des fois, il y a un début. Le début peut être insidieux ou brutal. Donc, Yeshua nous a dit dans Matthieu 24 que le début des choses sera insidieux. Vous voyez, les choses, le début sera insidieux. Il y a une progression des signes. Il y a une progression des signes. Il y a une accentuation, une aggravation des signes. Et c'est l'aggravation qui doit nous montrer que le retour de Yeshua est imminent. Vous voyez, c'est comme une femme qui accouche. Vous voyez, donc Yeshua nous a donné un certain nombre de signes, des guerres, des bruits de guerre, la pandémie, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces choses, beaucoup de choses sont accomplies. Et Israël aussi. Les Hébreux, bien les Israélites, sont retournés dans leur terre. La terre d'Israël a repris vie, n'a pas vomi ses habitants. Avant, lorsque les Juifs n'étaient pas revenus, toute cette terre était marécageuse, infestée de moustiques. Rien ne poussait. Mais lorsque les propriétaires sont revenus, en tout cas ceux à qui l'Éternel a donné, la terre a repris vie. C'est comme si la terre attendait que les Juifs reviennent plutôt. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Israël est un signe pour nous. Un signe, un grand signe pour nous. C'est l'horloge de Dieu. D'accord? Donc, mes frères et sœurs, nous voyons également la gravité d'ici, parce que nous voyons la guerre qui se passe en Ukraine. Cette guerre si cette guerre dure, ça risque de dégénérer gravement. Ça risque de dégénérer parce que quand la guerre dure, il y a les ennemis de la Russie qui vont alimenter la guerre, qui vont pérenniser la guerre. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de destruction et un dérapage est vite arrivé. D'accord? Voilà. Donc, nous devons le savoir. Donc, cette guerre, si elle dure, elle va s'aggraver. Donc, parce que la Russie aimerait terminer cette guerre vite. Donc, elle va vouloir employer les grands moyens pour pouvoir, donc, quand on dit grands moyens, veut dire grande destruction. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Et beaucoup d'acteurs peuvent interagir également dedans. Donc, ça peut devenir compliqué, très compliqué. D'accord? Voilà. Très compliqué, mes frères et sœurs. Donc, nous devons nous préparer. La guerre peut commencer là-bas, mais nous savons que la dernière guerre qui aura lieu avant le retour, qui va provoquer le retour du Messie, cette guerre aura lieu à Jérusalem, où les armées, une coalition militaire, donc, va envahir Israël. Je ne sais pas dans quel but, mais le Seigneur, l'Éternel a dit que c'est lui-même qui va les amener. Que Gog et Magog ne voudraient pas combattre, faire la guerre, mais il va les amener. L'Éternel va les obliger parce que l'Éternel va juger les nations. Il va juger toutes ces nations qui ont causé beaucoup, beaucoup de destruction sur la terre. Ouais, ils ont causé beaucoup de destruction. Je le dis, hein, que l'Occident a causé beaucoup, beaucoup de destruction. Les gouvernements européens ont fait beaucoup, beaucoup de mal à l'humanité, ont fait beaucoup aux autres peuples. Et à Israël aussi, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est à juste titre que les Juifs comparent, assimilent l'Occident à Ésaü, c'est-à-dire le frère de Jacob, où l'Éternel lui a dit qu'il vivra par son épée. Et depuis la nuit des temps, l'Occident a toujours fait beaucoup de guerres pour ses intérêts. Beaucoup de guerres. Et ils ont vécu par leur épée, par leur puissance militaire. Tout dans le monde. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Hein. Je n'ai rien contre. Voilà, qui que ce soit. Donc si nous voyons, nous voyons que les prophéties sont là, hélas, les faits sont têtus. Ouais, les faits sont têtus. Donc l'Occident a vécu par son épée, ou bien par sa ruse. Hein? Nous voyons que également Esaü aussi a voulu ruser. Il a dit, ok, je vais attendre que mon père décède et puis je vais tuer mon frère. Et Esaü est caractérisé aussi par l'apparence. Vous savez, quand je disais cela à une amie juive que j'essaie de lui présenter l'évangile, donc elle m'a posé une question et je lui ai parlé de l'apparence, parce que dans la Bible, lorsque Jacob cuisinait ses lentilles et que Esaü est revenu, au lieu de dire lentilles, il a dit donne-moi ce rouge. Vous voyez, aucune parole n'est anodine dans la Bible. Ce rouge, l'apparence, où est-ce que dans ce monde on ne désigne pas les choses, ou bien on craint de désigner certaines choses, ou on passe par des subterfuges, par des mots détournés, on fait des paraphrases pour décrire une situation. Pour décrire une situation. On dit bidule truc, c'est où? C'est dans la civilisation occidentale. Hein? Bidule truc, on le dit ici. Hein? Truc bidule, voilà, pour ne pas décrire la chose. Donc c'est la part, et puis également c'est une civilisation aussi qui sont dans l'apparence. Regardez l'apparence depuis Rome, ils aiment l'appara, la quelque chose de grandiose, l'honneur. On couvre les choses d'or, alors que derrière il y a la pourriture. Vous savez, Rome s'est présenté comme une démocratie, mais c'est des intrigues, c'est des assassinats, c'est ceci cela. Combien de coups d'État les Occidentaux ont fait dans les autres pays pour installer leurs hommes. Alors, on couvre, oh, nous sommes des démocrates. Oh, nous voulons la démocratie. Nous bombardons pour la démocratie. Nous tuons pour la démocratie. Et en plus, on ne dit même pas tuer. On dit éliminer. Non, il y a un autre mot. Neutraliser. Voilà. Pour ne pas dire mort, parce que ça choque. Ça choque les opinions publiques. On a neutralisé, on a trouvé ce mot-là, neutralisé, pas tué ni assassiné. Vous voyez, donc c'est aussi une civilisation qui est dans l'apparence, mais c'est une civilisation vide. Je l'avais dit la dernière fois à propos de la création. Hein. Vous savez, j'avais parlé de la première phrase de la Bible où oui voilà la Bible parlait que la terre était informe et vide, boum voilà, boum, ou bien l'abîme également, théum, boum, oui ça veut dire vide, nulle part, détruit, mais également quelque chose, c'est-à-dire que c'est les quatre empires qui vont se succéder déjà sont dans la première phrase de la Bible. Théum, profond, profondeur, lieu profond, abîme. Vous voyez, abîme. Donc, tout est dans l'apparence ici en Occident. Ouais, on soigne les apparences. On soigne les apparences pour ne pas montrer la laideur qui se trouve derrière. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Ouais, beaucoup d'hypocrisie. Il y a des nécessités dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Mais la dernière fois, la Commission européenne a sorti 400 combien? 40 ou bien 450 millions pour acheter des armes à l'Ukraine. Alors que il y a des problèmes sociétaux, il y a des gens qui meurent de faim, en tout cas les SDF n'ont pas de toit, les gens meurent en hiver, les gens meurent ainsi de suite. L'Union européenne n'a pas sorti de l'argent pour les aider, en tout cas je ne sais pas, peut-être, hein, mais on n'a rien fait. Mais comme il y a la guerre qui entraîne une destruction, on sort de l'argent pour armer encore davantage. Vous voyez, ce monde-là est à peu près, ce monde-là vraiment est vraiment ce monde-là est vraiment tourne à l'envers, quoi, marchant sur la tête. Donc là, je parle de l'Occident dans tout son ensemble, qui représente la résurgence de la Rome, de l'Empire romain, hein, de l'Empire romain. Donc voilà, ça ce n'est qu'une introduction que je voudrais faire. Et maintenant, revenons à notre texte de Ésaïe. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements à tirer ici. Ouais, d'abord, le premier verset dit « Ainsi parle l'Éternel ». C'est comme si au commencement, dans le commencement, l'Éternel Elohim créa les cieux et la terre. Cette phrase, je l'ai comparée à ça. « Ainsi parle l'Éternel ». Voilà, c'est l'autorité suprême, c'est le créateur de ce monde qui parle, quoi, qui parle. Hein, c'est lui qui a façonné tout, c'est lui le propriétaire de ce monde qui parle. Ainsi parle. Au commencement, l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. On peut comparer à ça. Qui t'a créé? Il a créé qui? Il parle de Jacob, du peuple. Vous avez vu que créé Bara, c'est participe actif. C'est lui qui fait l'action. C'est Dieu qui fait l'action. Vous voyez, ce verbe a été utilisé aussi dans la première phrase de la Bible. Que, au commencement de créer les cieux et la terre, il a dit que la terre produise, mais au fait, c'est pas ça le bon français. En tout cas, c'est pas ça la bonne traduction. Au fait, quand l'Éternel dit, la terre n'intervient pas, hein, parce que quand on lit dans la version française, c'est comme si c'est la terre qui produit la chose. La terre n'est rien. Ça a trompé beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui on parle, la terre est devenue une divinité pour certaines personnes, on parle de la terre mère, ainsi de suite, comme si la terre avait un pouvoir pour produire. Non, le quand l'Éternel dit par exemple qu'il y a des poissons, par exemple, il dit que les eaux poissonnent de poissons, ou bien que la terre comment on dit, verdoie de verdure. Vous voyez, c'est ça, quoi. Il a dit, c'est le même verbe. Hein? Il n'a pas dit que la terre produise. Il n'a pas dit ça. Mais que les eaux poissonnent aussi, ainsi de suite. Bon, ce ne sont pas les eaux qui font quoi que ce soit, ni la terre qui fait quoi que ce soit. Mais c'est l'Éternel qui fait pousser, qui fait cela. Donc c'est lui qui crée, c'est l'Éternel qui crée. Et nous avons vu avec les révélations du Saint-Esprit, c'est au fait que c'est le Fils, que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Voilà, parce que même quand on décompose le verbe bara, vous voyez, le bar, on peut lire ça comme ça, on peut le lire la première fois d'une façon, on dit au commencement le Fils, on peut le dire ça, bar veut dire Fils. Donc ça c'est en parenthèse. Donc c'est l'Éternel qui parle, le propriétaire, au commencement. Personne ne peut dire quoi que ce soit ici, parce que c'est l'Éternel Dieu qui parle. Et ainsi parle, c'est comme la première phrase de la Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il ne demande la permission à personne, il dit ainsi parle. C'est lui qui parle, mes frères et sœurs. Qui t'a créé, ô Jacob? Oui. Et vous allez voir qu'il a parlé de Jacob, il n'a pas parlé d'Israël. Jacob, comme son nom l'indique, c'est le talonneur, celui qui trompe. C'est Jacob qui est dans sa nature humaine, comme l'Éternel aussi, il a créé l'homme. L'homme n'était pas encore vivante. Il a créé, l'homme était inerte. C'est comme l'homme était dans sa nature première. Jacob ici, c'est dans sa nature, avec ses défauts, avec ses péchés, avec ses chutes. Celui qui prend le talon, celui qui trompe, celui qui supplante, qui usurpe. Vous voyez, qui a usurpé la bénédiction de son frère. Hein? D'accord? Donc c'est ça. C'est comme l'être humain non régénéré, non né de nouveau. C'est ça, au fait. C'est Dieu qui nous a tous créés, qui a créé l'humanité, qui lui a donné l'existence. D'accord? Qui lui a donné l'existence. Et nous voyons, voilà, c'est comme l'homme non régénéré. Et la deuxième partie de ce verset dit, bon, entre parenthèses, cet enseignement-ci va être long parce que je m'excuse, quoi. Je vais faire encore une heure sûrement, ou bien même au-delà. Donc, je m'excuse. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais excusez-moi. Hein, les frères et sœurs, excusez-moi. Hein, je ne ferai pas 25 minutes comme la dernière fois. C'est vrai, mais bon, vous l'écouterez en deux parties. Hein, d'accord? Celui qui t'a formé, Yachar, voilà, je ne prononce pas bien, façonné, formé, structuré, voilà, structuré, voyez, ouais, c'est comme, il y a un but structuré, un plan du but, c'est ça, du but divin, ouais, et l'Éternel a façonné l'homme, c'est ce que la Bible nous dit. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, dans Genèse 2, le verset 7. Il a créé et maintenant il forme. Il souffla dans ses narines. Il a mis une âme et l'homme est devenu un être vivant. Il a anamé, si on peut le dire. Anamé. Je ne sais pas si on peut le dire. Il a donné une âme. Non, on ne peut pas le dire, j'ai inventé ce verbe-là. Il a donné une âme. C'est comme l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau. L'Éternel a façonné. L'Éternel a mis son esprit en lui, comme celui qui est né de nouveau, où l'Éternel scelle la personne de son Esprit Saint. Et c'est ce que Yeshua nous a dit dans Jean 3. Que celui qui est né de la chair, celui qui est né de l'esprit, esprit. Celui qui est né de nouveau, est né d'en haut. Donc, Israël, c'est le stade final du processus. C'est le stade final du processus. C'est celui qui loue, non? C'est celui qui loue Dieu, non? Dieu prévaut, lutteur avec Dieu. Mais ça veut dire aussi louange, non? Ou bien c'est Yuda, oui? Yuda plutôt, c'est Yuda, c'est pas Israël. Il y a Yuda dit, celui qui loue Dieu. Mais ici, lutteur avec Dieu. Ah oui, lutteur avec Dieu. Voilà, c'est comme celui qui est né de nouveau. Jacob est transformé. Jacob maintenant est né de nouveau. Jacob a été formé, a été structuré, a été établi dans un but, a été planifié. Comme celui qui est né de nouveau aussi est planifié à aller jusqu'à la statue parfaite du Messie, à ressembler au Messie. Comme ici, l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, après il lui a soufflé en elle, son esprit, et l'homme est devenu un être vivant. C'était le but visé par l'Éternel Dieu, que l'être humain devient un être vivant, un être animé, un être de relation qui peut entrer en relation avec lui, un être autonome. Parce que tant que l'esprit de l'Éternel Dieu, d'Élohim, n'est pas entré en lui, tant que l'Éternel ne l'a pas façonné, c'est comme si l'Éternel a pris le temps. Il y a une notion aussi de temporalité, a pris le temps, comme aussi l'Éternel Dieu prend le temps également de former celui qui est né de nouveau. Vous voyez, de le façonner et de le faire passer par différentes choses pour amener cette personne à la statue parfaite du Messie. C'est ce que la Bible nous dit. D'équiper cette personne, de l'équiper de dons, de l'équiper, cette personne va passer par des épreuves, va passer par des moments difficiles. Ouais, l'Éternel est là pour le façonner, pour l'aider, pour le guider. L'Esprit de Dieu est là. Ouais, l'Éternel met à sa disposition toutes ses ressources. L'Éternel le façonne, l'ajuste. C'est comme ça, durant toute sa vie, pour que cette personne-là puisse arriver donc à la statue parfaite du Messie. D'accord, c'est ça. Donc, il y avait Jacob et l'Éternel a créé Jacob. Maintenant, l'Éternel a façonné Jacob et Jacob est devenu Israël. Il a formé par des épreuves, par beaucoup de choses. Et l'Éternel se pose en tant que le propriétaire, en tant que le père d'Israël, en tant que celui qui a créé Jacob, celui qui l'a formé, l'a transformé et l'a transformé en Israël, parce que l'Éternel a un but pour ce peuple. Il a suscité ce peuple pour un plan, pour un objectif précis. De la même manière, l'Éternel aussi a suscité l'Église pour un but précis, pour un plan précis. Donc, toi qui m'écoutes, si tu es né de nouveau, l'Éternel t'a créé, l'Éternel, ton Dieu te connaît, il connaît pas ton nom, il connaît le nombre de tes cheveux, tout sur toi, il le connaît, c'est ton Père. C'est lui qui t'a pris, qui a transformé toi, Jacob, en Israël, qui nous a transformé, nous qui n'avons pas de cité en Israël, nous n'avons pas de cité en Israël, nous qui étions loin de la volonté de Dieu, loin de Dieu, des païens, des goyes, l'Éternel a fait de nous ses enfants, nous a adoptés et nous a greffés parmi l'olivier d'Israël, afin que nous participions également à la gloire d'Israël, nous participons également à la sève d'Israël. Et il dit ici à Israël de ne pas craindre. Qui peut s'opposer à l'Éternel Dieu? C'est ce que Yeshua a dit, que personne ne peut ravir de la main de son Père, celui qui l'a sauvé. Personne. Il a dit, vous avez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte. Lui, Yeshua, il a vaincu le monde. Lui, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu le monde. Donc, mes frères et sœurs, ne craignons point. Quels que soient les bruits de guerre que nous allons entendre, quelles que soient les guerres que nous allons entendre, ne craignons pas. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons le Dieu et faisons ce qu'il nous dit. Si la guerre éclate, oui, on peut partir, hein. Il faut partir, il faut aller se réfugier. Il faut chercher refuge ailleurs. Mais l'Éternel nous guidera et nous protégera en toutes choses. En toutes choses, il va nous guider, il va nous aider. Il dit, ne crains rien, je te rachète. Je te rachète. C'est lui les garants. Racheter veut dire aussi venger. Se venger, agir comme parent, vengeur de sang. D'accord? Vengeur de sang. Racheter, soit être racheté. Dieu étant le rédempteur. Mais oui, l'Éternel a racheté Israël. Mais il a racheté Jacob qui est devenu Israël. Il est son rédempteur. Il le protège. L'Éternel Dieu a racheté des nations pour en faire son Église. Il est leur rédempteur, leur protecteur. Il est aussi leur vengeur. Celui qui s'attaque à l'Église, celui qui s'attaque à Israël, s'attaque directement à l'Éternel Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que Yeshua aussi a dit à Paul. Pourquoi me Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que Shaoul n'a pas persécuté Yeshua. Il a persécuté ses disciples, ou bien ses croyants, ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent. Voilà. Et c'est ce que Yeshua aussi dira à des gens, aux nations. Il dit, chaque fois que vous faites ça à un petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites, dit, ah oui, nous avons, quand est-ce que nous t'avons vu nu, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif, ainsi de suite. Oui, c'est ça. Parce que l'Éternel Dieu est le Rédempteur d'Israël. C'est lui qui l'a racheté. Il est le propriétaire. Et Yeshua est le propriétaire de l'Église. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il est notre garant, il est notre protecteur, il est notre propriétaire. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. D'accord? Et comme à Israël, il appelle Israël par son nom, appelé Kara. Il connaît le nom d'Israël. On chantait un cantique là-bas, je connais le nom. Je connais le nom de Jésus-Christ. Son nom est Emmanuel. Quand je connais son nom. On chantait, bon, je ne sais pas bien chanter. J'ai oublié mes cordes vocales au verset. Excusez-moi. Donc voilà. Il ne connaît pas notre nom. Le nombre de notre cheveux est compté. Vous voyez, l'Éternel est le garant d'Israël. Il a même dit que Israël est comme la prunelle de ses yeux. Hein, pour nous donner le degré le degré de protection qu'il a su Israël. Hein, qu'il a su Israël, le degré de protection qu'il a su Israël. Ou bien, combien Israël lui est cher. Ou bien, combien aussi, puisque nous aussi, l'Église, nous sommes greffés parmi le levier, combien l'Église est chère. Et Yeshua a dit que l'Église est son corps également. Voilà, l'Éternel Dieu ici, il est le propriétaire, il appelle Israël, il est le garant. Personne ne peut toucher Israël, sinon il touche l'Éternel Dieu lui-même. Voilà, tu es à moi. Voilà, nous sommes, Israël est à lui, nous sommes, l'Église aussi est à l'Éternel Dieu. Si tu traverses les eaux, on l'a vu, non? Israël a quitté l'Égypte. L'Éternel a déployé sa puissance, son autorité. Le Dieu 1, Elohim, a vaincu les dieux, les divinités égyptiennes. Il les a ridiculisés, les a abattus. De la même manière, Yeshua a ridiculisé l'ennemi. Il les a livrés en spectacle à la croix, hein, pour se racheter, pour sauver des hommes, pour sauver tous ceux qui croient en lui, pour arracher de ce monde une portion, l'Église. Et l'Éternel aussi a fait sortir de l'Égypte son peuple en déployant sa puissance, son autorité. Et Israël, il les avait traversé les eaux profondes, la mer Rouge, non? Il les a fait traverser les eaux profondes. Et vous savez que selon la version qu'on nous a donnée, les eaux formaient un mur le long, formaient deux murs le long, et les Israélites devaient traverser. Même si c'est pas ce que dit, si on devait traduire littéralement en hébreu, il était dit qu'ils ont traversé les eaux sèches. C'est ça, ils ont traversé les eaux sèches. Voilà, c'est ce que l'hébreu dit. Mais ces murs d'eau, ils avaient l'Égypte, leurs anciennes vies derrière, ils avaient les murs d'eau qui est le présent, les épreuves présentes, et lorsqu'ils ont, il y avait Cana en vue, c'était leur futur là-bas. Donc l'Éternel Dieu était avec eux, les fleuves ne les ont pas submergés. Je serai avec toi. Il était avec eux, il les a gardés des Égyptiens. Il a même fait couler toute l'armée, éliminer toute l'armée égyptienne, voilà, pour préserver Israël. On le verra en bas. Lorsque j'ai lu ces versets pour la première fois, en tout cas, moi, je l'ai interprété ainsi. Je vous le dirai tout à l'heure, que l'Éternel Dieu est prêt à faire des bouleversements géostratégiques dans le monde pour sauver son peuple, pour faire aboutir ses plans. Il a été avec les Hébreux dans les eaux de la mer Rouge, les eaux profondes, et il a été aussi avec eux dans le Jourdain. Je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Le Jourdain ne les a pas submergés. Lorsque les sacrificateurs ont mis leurs pieds avec l'arche dans le fleuve, le Jourdain aussi s'est séparé en deux. Les eaux ont cessé de couler. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est prêt à bouleverser ce monde, à faire des bouleversements géostratégiques, à faire des choses inouïes pour te sauver, pour sauver son peuple, les eaux ne les ont pas submergés. Donc ils ont quitté l'Égypte, les eaux profondes, ils l'ont traversé, ils ont traversé le Jourdain également. Et si tu marches dans le feu, ils ont été à la montagne de Sinaï où il y avait le feu et le feu ne les a pas brûlés. Ils ont reçu plutôt une loi écrite de la main de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est le Saint d'Israël, est le Sauveur d'Israël et le Sauveur également de l'Église. Mes frères et sœurs, quelle que soit ta situation, l'Éternel est avec toi, l'Éternel te gardera de tout mal. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, c'est-à-dire que l'Éternel Dieu parle ici des situations extrêmes, les eaux, les fleuves. Il a dit les eaux, hein, donc ce n'est pas simplement une seule situation. Les fleuves et le feu, tu ne te brûleras pas. C'est ça l'Éternel Dieu qui nous protège. Et la flamme ne t'embrasera pas. Souvenons-nous des compagnons de Daniel. La Bible nous rend témoin. Même l'odeur du feu ne s'était pas attachée à leurs vêtements. Mes frères et sœurs, pourquoi crains-tu? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi trembles-tu devant la colère de l'oppresseur? Pourquoi continue de vivre ta foi? Continue de te sanctifier? Continue de marcher conformément à la parole de Dieu? Quelles que soient les épreuves, là, vous voyez que c'est loin de l'évangile de prospérité hein, qu'on nous sort tout le temps là, où il y a des adeptes. Ouais, c'est vraiment, nous sommes vraiment à la fin des temps, où il y a beaucoup de fausses prophéties. Yeshua même nous a dit, même si on nous dit, ok, qu'il est ici dans la chambre, n'y allez pas. Nous n'avons pas besoin de courir, d'aller. C'est lui qui viendra nous chercher. Il dit, c'est lui qui viendra nous chercher. Il va envoyer ses anges aux quatre coins pour aller chercher, pour rassembler ses élus. Même si tu te trouves dans ta cave et tu es à lui, viendront te chercher. Donc, ne crains pas. Ne craignons pas. Ne craignons pas. Prenons nos dispositions simplement. Prenons nos dispositions. Si la guerre vient, bon, allons dans un autre pays et l'Éternel nous gardera. Mais avant que la guerre n'arrive, je suis sûr que l'Éternel Dieu a révélé des choses à des frères ukrainiens ainsi de suite et qu'ils ont pris leurs dispositions, je ne sais pas. Voilà. Mais nous ici, bon, si la guerre vient, ah oui, mais il faut prendre des dispositions, mes frères et sœurs. Et l'Éternel est là pour nous protéger, pour nous garder. De la même manière, quel que soit ce qui va arriver, c'est l'Éternel qui garde Israël, c'est l'Éternel qui garde l'Église, qui te garde, toi qui m'écoutes, qui me garde, qui nous garde tous. C'est le Saint d'Israël. Il dit que le feu ne nous brûlera pas, les fleuves ne nous submergeront pas, les eaux ne nous terrasseront pas. C'est ce qu'il a dit, là, parce qu'il est notre protecteur. Nous sommes à lui. Il ne peut pas nous laisser. Si nous sommes à lui, il nous gardera. D'accord? J'ai appris que Israël est en train de fabriquer un dôme de laser. Un dôme de laser, donc, qui sera opérationnel dans quelques temps, qui va couvrir tout le pays. Ce qui fait que aucun missile ne pourra atteindre Israël, toucher Israël. Quand quelqu'un, les ennemis lancent un missile, ça va ricocher sur ce dôme de laser. Voyez comment la technologie va à ce point. Mais qu'Israël ne se trompe pas. C'est l'Éternel son sauveur. Ses ennemis trouveront la parade. Parce que c'est une technologie. D'accord? Que Israël ne croit pas que son armée, c'est son armée qui va le sauver. Mais c'est l'Éternel qui va le sauver. C'est ça. Que les Juifs ne fassent pas l'erreur. L'erreur. Ils ont vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Je pense que les États-Unis ne sont pas indemnes de tout reproche. Ils ont poussé les Ukrainiens à chercher querelle, à défier la Russie, mais au dernier moment, ah ok, nous on ne peut pas vous aider, on va vous fournir
néanmoins des armes, mais on ne mettra pas nos troupes ainsi de suite. Voilà, vous êtes seul à se faire tuer ainsi de suite, parce que si nous voulons, si nous avons une confrontation directe avec la Russie, ce sera la troisième guerre mondiale. Et c'est vrai. Troisième guerre mondiale. Mais ils se sont tous partis. Hein. Ils sont tous partis. Les États-Unis ne vont pas intervenir. Ce qui arrive là, c'est ce qui va arriver à Israël. Parce que l'Éternel nous montre. Voilà, c'est le « je viens ici, là ». D'abord, ce verset que je vais lire, je l'ai compris. Je ne sais pas, hein. Je l'ai compris de deux manières. Alors, c'est le verset, voilà, c'est le verset 3. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Voilà, c'est l'Éternel qui sauve Israël. Ça que je disais, c'est pas le dôme de laser qui va le sauver des missiles. Et lors des différentes guerres que Israël a menées contre ses ennemis, c'est l'Éternel qui les a sauvés. Parce que Israël était en infériorité numérique, hein. En infériorité numérique. Mais ils ont gagné parce que l'Éternel est avec eux. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous comprenez ça? C'est ça que je disais, que l'Éternel Dieu est prêt pour sauver son peuple, à faire des bouleversements géostratégiques. Vous voyez, ce verset s'applique, c'est déjà accompli au temps de Cyrus. Au temps de Cyrus, lorsque l'Éternel a permis à Cyrus, qui était un chef d'un petit peuple, de vaincre les Mèdes, de les absorber, les Mèdes, parce que c'était les Mèdes qui les dominaient avant, qui dominaient aussi les Perses à l'époque. Mais Cyrus était un chef local qui a pris de l'ampleur, qui a détrôné le chef des Mèdes et qui est devenu roi et qui a pris aussi Babylone, presque sans combattre, pour pouvoir libérer les Juifs. Les Hébreux, l'Éternel l'a fait pour que Israël, les Juifs, puissent retourner à Jérusalem, reconstruire le pays. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est ça hein, qu'il est en train de dire. Et nous avons vu que Cyrus a mené la guerre. Il s'est étendu jusqu'en Égypte. Il a pris une partie de l'Égypte. Il a pris une partie de l'Égypte, une partie de l'Afrique, c'est l'Éthiopie, l'Afrique. L'Égypte ne se trouve pas dans la Bible, ça s'appelle Misraïm. C'est le pays des limites. Misraïm, l'Égypte, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est Misraïm. L'Éthiopie, c'est Kush. Seba, c'est le royaume de la reine de Seba. Voilà, qui s'étend jusqu'au Yémen. Ça s'étend de une partie de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Seba, c'est une partie de l'Éthiopie jusqu'au Yémen, là-bas, au sud de l'Arabie. Voilà, ça s'étend là-bas, Yémen, sud de l'Arabie, tout ça là. Donc, l'Éternel a permis à Cyrus de vaincre, de gagner Babylone, de prendre le pouvoir et de s'étendre. Donc l'Éternel a prêt à faire des bouleversements géostratégiques pour faire aboutir ses plans pour libérer son peuple. De la même manière également, deuxième pensée, c'est-à-dire que les choses qui arrivent aux nations servent d'exemple à Israël sur ce qui va lui arriver. Je répète, c'est comme ça. La deuxième façon que j'ai compris ce verset, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que j'ai compris. La deuxième façon de comprendre ce verset-là, que les choses qui arrivent aux nations montrent à Israël ce qui va lui arriver. Par exemple, l'Ukraine, où les États-Unis ont dit non, on n'intervient pas. Et de la même manière, lorsque les armées vont se lever contre Israël, je pense que Israël n'aura pas de soutien. Et l'Éternel fait cela pour amener Israël, les Israélites, à se poser de bonnes questions et à se repentir, à revenir vers lui, à reconnaître le Messie Yeshua. Parce que toutes les nations vont les lâcher de la même manière comme l'OTAN a lâché l'Ukraine. Les États-Unis ont lâché l'Ukraine. Ils n'envoient pas de soldats. La Russie est plus forte. Même si l'Ukraine a beaucoup d'armes, ainsi de suite, on lui a fourni des armes, ils ne pourront pas tenir longtemps. D'accord? Voilà. Donc, ce qui va arriver à Israël est déjà arrivé à des nations. Les Nations Unies, une coalition des nations s'était attaquée à la Côte d'Ivoire, était attaquée aussi à l'ex-Yougoslavie, à la Serbie. Ils ont détruit, sans autorisation, ils ont attaqué. Et les armées ont attaqué aussi la Côte d'Ivoire avec le président, l'ancien président. Ils ont attaqué et ils ont pris le pouvoir, ils ont installé leurs hommes à la tête. Et ils ont fait aussi la même chose à la Libye. Mais oui, et ils feront pareil à Israël lors de la dernière guerre. Ils vont l'envahir parce que sûrement que les Nations Unies vont prendre une résolution et Israël va refuser de se soumettre et ils vont faire une coalition pour l'attaquer. Et néanmoins, certaines disent que la guerre de Gog et Magog, parce qu'il y a aussi des prophéties au niveau des certains rabbins qui disent que, je vous dis tout ça pour que vous compreniez, vous ayez quand même beaucoup d'informations, que la guerre de Gog et Magog va commencer en Ukraine, que lorsque les Russes vont prendre l'Ukraine et que cette guerre va commencer là-bas, va s'étendre. Peut-être que cette guerre sera circonscrite, hein, ou bien peut-être que elle va avoir une résurgence. Oui, il va avoir une résurgence, sûrement, parce que sûrement que la Russie va prendre une partie de l'Ukraine. J'ai écouté un frère prophète la dernière fois qui a dit ça. Je ne sais pas, on va voir ce qui va arriver, hein. C'est ce que la Bible dit, d'éprouver les esprits, et que si un prophète dit quelque chose qui ne se réalise pas, ce sera un faux prophète, et que va prendre une partie, oui, selon, en tout cas, même si je ne suis pas prophète, puisque la Russie aimerait protéger les populations russophones de l'Ukraine, donc il va prendre ces régions-là, il ne va pas les rendre. Ces régions vont proclamer leur indépendance, vont faire un référendum et vont se rattacher à la Fédération de Russie. C'est ce qui va se passer. C'est ce que, face à l'Occident décadent, comme dit le président russe. Voilà. Donc, il fait aussi cette guerre-là, aussi, à cause de la décadence, à cause de la décadence des mœurs en Occident, que l'Occident a perdu complètement le Nord. Et ce qui arrive à l'Égypte va arriver aussi à Israël. Donc, je le répète, c'est le deuxième sens de ce verset-là. Que ce qui arrive aux nations, hein, Dieu fait des choses pour nous avertir également. Des signes pour nous avertir. Des balises pour nous avertir que c'est ce qui va arriver. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a une puissance militaire qui est entrée en guerre. On ne voit plus ça. Il y a eu les États-Unis, mais les États-Unis n'étaient pas seuls. Il y a une coalition pour attaquer l'Irak. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une puissance militaire, un pays puissant qui attaque. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Donc, il y a deux façons de comprendre ce verset-là, dont les ténèbres a fait des bouleversements géopolitiques pour sauver son peuple, pour sauver tous ceux qui lui sont chers, pour sauver l'Église. Et il a fait aussi dans l'histoire, hein. Dans l'histoire, il a fait beaucoup, 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 il a fait. Et parce que Israël a du prix à ses yeux, parce que Israël compte, parce que l'Église compte pour lui, hein. Ne pensons pas que l'Éternel Dieu ne pense pas, ne voit pas ce qui se passe, même si des fois on ne comprend pas les situations. Et ce qui se passe là, c'est aussi un exemple pour les autres nations pour s'armer. Hein, pour s'armer. Parce qu'ils vont dire que, ah, si la Russie fait ça, peut-être que d'autres nations également vont vouloir protéger leurs ressortissants, leur peuple. Parce que les découpages des pays ne sont pas tout à surtout en Afrique, mais aussi en Europe aussi, hein, parce que l'Ukraine aussi est un conglomérat de peuples et de nationalités. Il y a des Hongrois, des Tartares, il y a des Grecs. Je pense qu'il y a aussi des Turcs, des Ottomans ont laissé la descendance. Il y a aussi des Polonais, ainsi de suite. Donc, c'est un mosaïque de peuples. C'est pourquoi moi, je parle que c'est une guerre civile ethnique, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Cette guerre peut s'étendre. Et puis, il y a un autre fait. Vous ne le savez peut-être pas. Vous savez, le président ukrainien est juif, même s'il est non pratiquant. Le ministre de la Défense de l'Ukraine aussi est juif. Hein? Voilà. Et Israël a voté contre la Russie. Et Israël, le premier ministre israélien, a envoyé de l'aide alimentaire en Ukraine. Et a envoyé aussi des médecins en Ukraine. J'ai vu une centaine de médecins pour pouvoir soigner les blessés, ainsi de suite. Voilà. Et en discutant avec quelqu'un aujourd'hui, il m'a dit que ce premier ministre a fait cela pour favoriser l'immigration en Israël des juifs ukrainiens. Hein? Je vais aborder la deuxième partie de mon sujet. Alors que Israël a tout à fait des raisons pour ne pas envoyer de l'aide aux Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, ceux qui sont les Ukrainiens, qui sont les nationalistes, leur ascendant au cours de la Deuxième Guerre mondiale était pour les nazis et ils ont massacré des juifs. 30 000 juifs massacrés, femmes et enfants, égorgés, la tête coupée, simplement parce qu'ils sont juifs. Tués comme ça parce qu'ils sont juifs. 30 000 enterrés là-bas, à côté de Kiev. Vous comprenez? Il y a d'autres pogroms également. Vous voyez? Et puis, des deux côtés également, des deux côtés donc de la Russie et de l'Ukraine, il y a des juifs soldats. Et comme ils ont décrété l'état d'urgence en Ukraine, les jeunes hommes de 18 à combien? À 60 ans ne peuvent pas partir, ne peuvent pas sortir de pays. Ils sont enrôlés de force à faire la guerre. Donc, les juifs aussi vont s'entretuer puisqu'ils sont de part et d'autre. Vous comprenez? C'est vraiment quelque chose de complexe qui se passe. Et comme Israël a voté, ce premier ministre, il s'est empressé d'aller en Russie pour s'expliquer avec Vladimir Poutine. Mais comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Oui, parce que la Russie fait beaucoup de facilités à Israël. Il n'intervient pas contre Israël lorsque Israël bombarde les cibles iraniennes en Syrie et les cibles syriennes. Mais comme Israël s'était comporté comme ça, peut-être que la Russie aussi va être plus dure. Il est vrai que peut-être que, je dis peut-être, moi je ne suis pas prophète, hein, Vladimir Poutine, comme il a été élevé par une famille juive, hein, à cette dette-là, on m'a même dit qu'il a eu une maison même en Israël. Il a hérité d'une maison en Israël. Donc, peut-être que c'est pas lui qui le fera. Mais peut-être son successeur qui n'a aucun lien avec les juifs et le judaïsme va être plus méchant, va être plus sévère vis-à-vis d'Israël. Donc c'est ce que je veux dire. Et en parlant de l'immigration des Juifs ukrainiens, regardez le verset 5. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, de l'Est, ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, le Nord donne, l'Ouest donne. » Et au midi, le sud ne retient point. Fais venir mes fils des pays lointains, mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Regardez-moi ce verset. Regardez. Les Juifs sont venus de partout. De l'Est, de l'Orient. Les Juifs d'Arabie, les Juifs de Yémen, il y a même plus de Juifs au Yémen devant le dernier. Ils sont venus, les Juifs d'Arabie, de tout, de l'Est. Ils sont venus de l'Inde, ils sont venus. La Deuxième Guerre mondiale en a amené beaucoup également des Juifs russes qui sont venus. De l'Ouest également, la Deuxième Guerre mondiale les a amenés aussi. De l'Occident. Ils sont rentrés en Israël du nord de la Russie. Le nord de la Russie, c'est là-bas. Ils sont venus. De l'Irak, ils sont venus. Et de l'Éthiopie, ils sont venus. Ils sont tous venus. De l'Éthiopie, du Midi, d'Afrique, les Juifs d'Algérie sont venus. Les Juifs du Maroc, de Tunisie, ils sont rentrés en Israël. Même il y en a encore, hein. Mais cette guerre-là va amener les Juifs ukrainiens à rentrer. Même il y a un des rabbins qui demande aux Juifs d'Ukraine de rentrer. Depuis longtemps de rentrer, les Juifs de l'Occident de rentrer. Parce que seul Israël peut suffisamment les protéger. Que l'endroit où il faudrait se trouver au temps de la fin, c'est en Israël. Parce que c'est là où l'Éternel est. C'est là où l'Éternel va déployer sa puissance et son autorité. C'est ce que eux, ils disent. Même s'il y a des théories dans l'Église qui disent que non, que les Juifs ne doivent pas rentrer parce qu'avec la guerre, deux tiers périront. Et j'ai vu un pasteur aujourd'hui qui a prêché contre cette théologie-là. Qui a dit que non, qu'il faut revoir cette théorie, ainsi de suite. Bon, moi, c'est pas, je ne m'en occupe pas. Moi, j'enseigne ou bien j'interprète ce que la Bible dit. Donc, vous voyez que l'Éternel est en train, a déjà ramené et va toujours ramener parce qu'il va avoir une immigration de l'Ukraine vers, Israël. Malgré ce que les Ukrainiens ont fait aux Juifs, les Juifs sont restés là-bas. Hein. Les Juifs sont restés quand même en Ukraine. Pas beaucoup, mais il y en a quand même suffisamment. Maintenant, avec cette guerre-là et ce qu'a fait le Premier ministre, c'est dans le but de faciliter le retour des Juifs ukrainiens en Israël. Et on le voit ici, Dieu dit, il est là. Et c'est lui, je ramènerai. C'est lui qui va le faire. C'est pas aux hommes de le faire. Je rassemblerai. Je dirai au septentrion, voyez. Et au midi, c'est l'Éternel Dieu. Vous savez, en hébreu, on ne dit pas je suis. Hein. Seul je suis est utilisé pour l'Éternel Dieu. Anori. Voilà, je suis. Je suis. C'est l'Éternel dit. Il dit lui. Il dit je. Il se nomme lui-même. Il le dit lui-même. Il prend. C'est vraiment avec autorité qu'il le dit. Parce qu'il n'y a pas une autre autorité que lui. La Bible nous dit que pour pouvoir faire les promesses à Abraham, comme il n'y a personne plus grand que lui, il a juré par lui-même. Je le jure au nom de l'Éternel. Il a juré par lui-même pour faire la promesse à Israël. De la même manière, la Bible nous dit que dans les derniers moments, dans les temps de la fin, Jésus enverra ses anges aux quatre coins du monde avec des trompettes retentissantes. Vous voyez qu'il y a une similitude. Israël est l'exemple et l'échantillon de Dieu, de ce que l'Éternel Dieu va, Elohim va faire pour l'Église, de ce que Yeshua va faire, le Messie d'Israël et des nations va faire. Et la Bible nous dit, lorsque Israël sera à l'extrémité, ils vont crier. Ce dôme de laser ne fera rien. Ils vont crier à l'Éternel Dieu. Un cri terrible. Et Yeshua va revenir. Là, l'Église sera déjà enlevée depuis longtemps. Mais il va revenir avec ses anges, avec ses saints. Et son pied se posera sur la montagne des Oliviers. Cette phrase-là, les rabbins l'ont interprétée comme que c'est le Messie. Parce que c'était écrit, l'Éternel va venir, posera ses visions. Ils ont dit, non, ce sera le Messie. Parce que l'Éternel Dieu est invisible. Aucun œil ne l'a vu, ne le verra jamais. Dieu est invisible, Dieu est esprit. Donc il n'y a que le Messie qui a les pieds, qui peut se poser sur la montagne des Oliviers. Et nous nous disons, c'est Yeshua. Même si certains juifs ne croient pas, c'est Yeshua. Mais comme je l'ai dit une fois, beaucoup, ils savent que c'est Yeshua qui est le Messie, même s'ils ne le disent pas. Dans des pays lointains, l'Éternel Dieu a ramené ses enfants et va encore les ramener. Et Yeshua va rassembler l'Église des quatre coins. C'est pourquoi il nous dit, si on vous dit, il est ici, il est là, n'y allez pas. Restez là où vous êtes. Restez dans votre position. Restez sur votre position. Restez là où vous êtes. N'y allez pas. Mes frères et sœurs, et relevons la tête. Restons vigilants. Continuons de prier. Continuons de prier. C'est le moment même de veiller, de prier, parce que les signes sont déjà là. La femme va accoucher bientôt. Les douleurs sont de plus en plus vives, mes frères et sœurs. Et rapprochez. Yeshua nous a donné ce signe-là. C'est pas pour rien. Lorsque nous verrons l'accélération de ces choses, après la pandémie, maintenant c'est la guerre. Pam! On n'a même pas eu de répit. Donc, il y a quand même une accélération, un rapprochement des douleurs, mes frères et sœurs. On n'a même pas eu le temps de respirer. Et on nous annonce qu'il y a encore un variant qui est très contagieux, même si c'est pas mortel, tout, voilà, de Omicron, encore un variant, et ça reprend. On n'en finira jamais. Voilà, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. L'Éternel Dieu est en train de nous montrer que c'est lui. C'est lui là c'est lui là qui dirige toutes ces choses. C'est pas une autre personne. C'est lui. Donc c'est à lui que nous devons aller. C'est lui que nous devons prier. C'est à lui que nous devons crier. Mes frères et sœurs, les nations vont prendre les dispositions, bâillonner les gens, mettre des masques, on peut mettre double masque, triple masque, on peut même nous mettre tout le monde sous, comment on dit là, comme en Afghanistan là, on peut mettre tout le monde comme ça, hommes et femmes, le virus va encore circuler toujours. Les choses seront, parce que c'est l'Éternel Dieu, vous voyez, le monde doit revenir à lui. C'est pas de la méchanceté, c'est un jugement. Le jugement nous montre toujours le chemin à suivre. Le jugement nous montre le chemin du salut. C'est un jugement sur ce monde. Chemin nous montre que Dieu nous aide à interpréter correctement les signes et de ne pas nous fourvoyer. Oh oui, ça va s'améliorer, ça va faire ceci, mais non. Comme les choses ont commencé, ça va aller crescendo jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de répit, mes frères et sœurs. Donc nous aussi, nous devons lutter, nous devons tenir, nous devons nous engager dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Chaque jour qui passe, je sais que c'est pas facile, mais nous avons l'assistance de l'Esprit Saint. C'est le moment même de désirer les dons. Les ministères, nous devons prier comme l'Esprit Saint nous-mêmes. Désirer les dons, le meilleur, le don de la prophétie. pour guider le peuple, pour donner des lumières pour le peuple. Voilà, donc c'est l'Éternel qui va ramener tout ça, ceux qui s'appellent de mon nom, qui sont ceux qui s'appellent Israël. Il y a le nom de Dieu dans Israël. Mais oui, le nom de Dieu dans Israël. Et nous aussi, nous nous appelons du nom de Yeshua. Il nous a rachetés. Il a fait de nous un peuple, n'est-ce pas, l'Église. Ceux qui sont appelés or, ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments, donc ce n'est pas le moment de nous amuser encore. Mes frères et sœurs, gardons espoir. Ne craignons rien. L'Éternel veille. Ne crains rien, car l'Éternel est avec nous. Ne crains rien, mon frère et ma sœur. Regarde à Yeshua. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue d'obéir à la parole de Dieu. Si l'Éternel te dit quelque chose, fais-le immédiatement. Ne remets pas à demain. Fais-le immédiatement. L'obéissance prompte et totale. Parce que c'est lui qui nous a créés pour sa gloire. Nous sommes la gloire de l'Éternel. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, la Bible te dit, l'Éternel te dit là, que Yeshua te dit que ces problèmes ne te submergeront pas. Ces problèmes ne t'éloigneront pas de lui. Ces problèmes-là ne sont pas plus grands que lui. Hein? Avons-nous souffert plus que Yeshua? Avons-nous souffert plus que Étienne? Plus que les autres, mes frères et sœurs? Gardons espoir. Quelle que soit notre souffrance, regardons à lui. Oh! Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Éloignons de nous-mêmes les angoisses qui nous assaillent très facilement. Parce que c'est l'Éternel qui nous a formés, c'est lui qui nous a fait. Il a fait de nous, il nous a pris païens, et il a fait de nous des saints. C'est comme ça. Jacob a été transformé en Israël. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a formés. Et il nous a fait. Il nous a formés, Yatsar, et il nous a fait. Il a fait de nous quoi? Un temple pour son Père. Il nous a fait, Aza, accompli, fabriqué. Voilà, nous sommes accomplis en Yeshua. Il a fait, il nous a formés, il nous a façonnés. Hein? Nous sommes nés de nouveau, il nous a façonnés. Maintenant, nous sommes faits à l'image de son Fils. Voilà, mes frères et sœurs. Nous avons été fabriqués, préparés. D'accord? Nous avons été préparés à être comme son Fils. Voilà, comme son Fils Yeshua. Puisque c'est ça, c'est le but ultime. C'est le but que l'Éternel s'est donné de faire de nous des enfants du royaume. Il nous a fait comme ici, il a fait. Il a formé, il a créé Jacob, il a formé Jacob en Israël et il a fait Israël, il a fait quoi? Une nation de gloire, un royaume de prêtres et de sacrificateurs. De la même manière, il a fait de l'Église aussi ça. Il nous a pris comme de un rocher brut. Il nous a façonné, taillé, rapié. Il nous a taillé. Il nous a donné une forme. Voilà. Et après, il nous a fait. C'est-à-dire, il nous a verni. Vous voyez, quand on fait des tables, on parle de vernissage après. L'Éternel nous a apprêté, nous a préparé pour que nous soyons présentables, pour que nous soyons vraiment enfants du royaume. Et c'est ce que nous serons, des saints dans le royaume. D'accord? Puisque Yeshua va revenir avec ses saints. Nous serons ses saints. C'est ça. Mes frères et sœurs, consolons-nous avec cette parole et que l'Éternel nous bénisse et nous garde.
Amen et Amen. Aujourd'hui, je le répète, nous sommes le 11 mars 2022. La guerre continue. La pandémie aussi. L'épidémie aussi est toujours là. Voilà, donc la crise sanitaire. Même si toutes les mesures ont été levées, le virus ne peut pas disparaître comme cela. Il est vrai que la guerre a fait disparaître le virus comme par enchantement. Et méfions-nous des médias, parce que les médias racontent, sont plutôt des médias de désinformation. Je répète, le professeur Jacques Ellul de Bordeaux, le regretté frère, a dit que lorsque tu entends une information de la télé, commence d'abord par la remettre en doute, pas la mettre en doute. Mes frères et sœurs, comme au temps du coronavirus aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et tous les médias rapportent la même chose. Vous voyez, j'ai écouté quelqu'un qui disait qu'il y a un rabbin qui a dit, un penseur juif, un égézète, rabbin qui a dit que si tu tiens, tu dis quelque chose et que tu as deux ou trois personnes qui disent le contraire, bon, peut-être que tu as tort, peut-être aussi que tu as raison. Et si tu dis la même chose et que 10 personnes disent le contraire, peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Mais si tu dis que tu affirmes quelque chose et que tout le monde, hein, que tout le monde dit le contraire, c'est sûrement que tu as raison. C'est sûrement que tu as raison, d'accord? Donc, tous les médias, tout ça là, disent la même chose, dans les mêmes informations sur l'Ukraine. Moi, je me méfie. Il y a un proverbe, je terminais par là, qui dit que si tu as été un jour mordu par le serpent, si tu vois le ver de terre, tu crains, n'est-ce pas? Que oui, que même le ver, même tu crains même le ver de terre. Voilà, si tu as été une fois mordu par un serpent, hein, tu en viens même à craindre un ver de terre. Donc voilà, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce de rester fidèles à sa parole. Amen. Et Amen.